6-9 sur France Inter.
Et à 9h20, c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Elia Bergel. Bonjour.
Bonjour à tous.
On commence en Guadeloupe où les Jeux Olympiques de Tokyo font rêver les escrimeurs amateurs.
Oui, l'île est dignement représentée au sein du groupe France, écrit aujourd'hui le journal L'Équipe, avec les fleurettistes Isao Ratibus, Anita Blaz, sans oublier Yannick Borel qui pratique l'épée. En garde, Amélie.
Je suis prête.
Alors, ces champions, déjà bardés de médailles, veulent en rafler plus à Tokyo à coups de lame, en espérant égaler la performance de la Guadeloupéenne Laura Flessel. C'était en 1996.
Et un coup de qui donne la médaille d'or à Laura Flessel.
Championne olympique d'épée aux Jeux d'Atlanta. Alors tous ces athlètes sont des modèles pour les escrimeurs en herbe de Guadeloupe. Kéliane, 17 ans, elle voit les trois sportifs présents aux Jeux cet été comme une inspiration. On sait qu'ils ont réussi en partant de là où on est, glisse-t-elle. Son entraîneur, ou plutôt son maître d'armes, c'est Joël Teplier. C'est lui qui a mené Laura Flessel vers les étoiles. Alors forcément, ça fait rêver.
Élie, c'est une histoire peu connue, mais voilà. Un demi-siècle que l'escrime se pratique massivement en Guadeloupe.
En 1968, René Grosbois, désormais légende vivante, ouvre le premier club. Un an plus tard, en 69, il rencontre Robert Gara, un Hongrois, fuyant le régime communiste, en exil sur l'île. Lui aussi escrimeur, il trouve ainsi le moyen de garder un lien avec ses origines, son pays natal. Les deux hommes sont à l'origine de la passion pour ce sport sous le soleil des Caraïbes. Une passion toujours vivace, nourrie par les exploits des champions, et en dépit d'un infrastructure parfois en piteux état, explique l'équipe. Un engouement et un héritage défendu encore cette année au plus haut niveau.
Et sous leurs masques de protection et leurs épaisses tenues, les escrimeurs vont avoir sacrément chaud à Tokyo pour ces Jeux.
Ils ne seront pas les seuls à souffrir de la chaleur. Libé nous explique ce matin comment réchauffement climatique et températures extrêmes sont devenus un paramètre à prendre en compte chez les sportifs. 32 degrés attendus à Tokyo aujourd'hui. C'est un moment horrible quand vous voyez des athlètes franchir la ligne, leur corps s'effondrer dans un état d'épuisement total. Le témoignage de la rameuse Melissa Wilson dans un rapport sur l'impact de la chaleur publié par l'association britannique pour un sport durable.
Alors comment faire pour battre des records malgré tout dans une fournaise?
Alors le marcheur français Johan Diniz, contraint à l'abandon déjà aux mondiaux en 2019 à cause de chaleur insupportable, assure avoir mis les bouchées triples pour se préparer. Il raconte à Libération comment il s'entraîne dans des chambres thermiques qui reproduisent en fait la température, le taux d'humidité de Tokyo. L'humidité, voilà l'ennemi. On a du mal à évacuer la transpiration car nos pores sont bouchés. On n'arrive pas à descendre en température, explique Johan Diniz. Ces chambres, ça marche, promet l'athlète. Au bout de 7-8 jours de stage, ses performances reviennent à la normale. Mais paradoxalement, ces conditions extrêmes pourraient favoriser certains sportifs, ceux qui font des efforts dits explosifs. Par exemple, le sprint, le lancer, le saut, car les muscles plus chauds répondent mieux aux efforts très courts et très intenses.
Et ce matin, les journaux font aussi ce constat. Les premiers signes de la quatrième vague de coronavirus se voient à l'hôpital désormais.
Et c'est entre autres Le Monde qui l'écrit sur son site internet. Pour la première fois depuis 15 semaines, on constate une franche augmentation du taux d'hospitalisation. Le taux d'incidence, lui, est désormais à 108 en France, plus du double du seuil d'alerte. À Bobigny, les urgences de l'hôpital Avicenne ressentent déjà un frémissement. Sur les 16 lits ouverts en soins critiques, 5 sont occupés par des patients Covid, ils ont deux points communs. Leur âge, d'abord, assez jeune, entre 30 et 35 ans, mais surtout, aucun de ces malades n'est vacciné.
Et malgré cette reprise épidémique et l'importance du vaccin pour se prémunir des formes graves, certains anti-vax et anti-pass redoublent d'efforts pour trouver un faux pass sanitaire.
Sur la messagerie cryptée Telegram, un vendeur propose un certificat contrefait pour une centaine d'euros, explique le journal Le Monde. 200 euros pour un document officiel obtenu grâce à sa voisine qui travaille à la sécurité sociale, c'est la promesse du faussaire. Internet et les réseaux sociaux pullulent d'offres de ce type. Samuel, un commercial de la région toulousaine, assume dans l'article, il a pris le risque, même si ça ne marche pas, dit-il, au moins j'aurais tenté le coup, car vous vous en doutez, les arnaques fleurissent en ligne. Alors certains anti-vax tentent carrément de soudoyer les soignants. La Dépêche nous explique qu'au centre de vaccination de Toulouse, des personnes ont proposé de l'argent liquide au personnel pour ne pas qu'ils fassent l'injection, mais fournissent le précieux sésame.
Et face aux anti-vaccins, Olivier Véran, le ministre de la Santé, mise sur la pédagogie et le dialogue.
Véran face aux réfractaires, écrit Le Parisien aujourd'hui en France. Une photo du ministre, l'index tendu, le regard déterminé sur sa une. Une longue discussion avec quatre lecteurs non vaccinés, sceptiques, voire totalement opposés au vaccin. Un dialogue de sourds parfois, filmé et mis en ligne sur les sites du Parisien aujourd'hui en France.
Est-ce qu'on n'est pas en train de tout simplement basculer dans une dictature ?
Si on était en dictature, je passerais pas des jours et des nuits à débattre de milliers d'amendements dans le cadre d'un projet de loi qu'on ne peut pas faire passer sans majorité au Parlement. Et si on était dans une dictature, il n'y aurait pas des milliers de personnes dans les rues qui peuvent manifester le samedi pour dire qu'on est des dictateurs.
Et un débat tellement sensible et clivant que Le Parisien assure n'avoir jamais eu autant de mal à recruter des volontaires pour débattre.
Et pour finir, Élie, vous nous parlez des péages, un incontournable des départs en vacances. Et
bien souvent automatique, il en reste encore avec du personnel pour prendre votre monnaie, ouvrir la barrière. Sud-Ouest raconte aujourd'hui la vie des derniers péagistes en France sur le pont de l'île de Ré, par exemple, d'irréductibles qui résiste encore à l'envahisseur robotisé, peut-on lire dans ses colonnes.
Car il s'agit bien d'un métier en voie de disparition.
Avec ses peines et ses joies, raconte Daniel, une employée du péage, les peines d'abord. Les automobilistes aimables comme des portes de prison, ceux qui payent en pièces rouges, comme ces mesquins. Et ce n'est pas inhabituel, assure Daniel. Mais il y a les joies aussi, avec ce plaisir d'admirer le coucher de soleil sur l'océan. Un plaisir éphémère. Dans 2 ans, le métier de Daniel et ses collègues sera robotisé. Mais d'ici là, elle devra encore se tenir à ce sigle quotidien, son mot d'ordre qu'elle doit prononcer à la chaîne pour accueillir les clients, SBAM, comme sourire, bonjour, au revoir et merci.
SBAM, merci à vous, Elia Bergel.